Il proclamait à son de trompe à tous les carrefours. Il n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité, c'est une affaire de balourd. Corne d'Europe, il potassait à la chandelle. Au gué, des traités de maintien sexuel. Au gué, et sur les femmes nues des musées. Au gué, faisait le brouillon de ses baisers. Au gué, petit à petit. Au gué, on a tous eu de lui. Au gué, on a...
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 12 mars 2025, c'est reparti pour une nouvelle émission au fil des pages, 1h30 de partage de livres, jusqu'à 18h30, Frédéric, Agnès, Marie, Francis et aujourd'hui Hélène Hernandez qui nous rejoindra dans la troisième demi-heure de l'émission pour nous parler du livre « La guerre contre les femmes, les femmes contre la guerre » publié aux éditions du Monde Libertaire en novembre 2024. Frédéric, avons-nous des annonces ? Pas d'annonces, très bien. En plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, et toujours sur le blog du groupe Commune de Paris. Vous cliquez sur « Contact » qui figure sous la banderole. C'est parti pour la première demi-heure. La première demi-heure, elle est consacrée à alimenter le débat. Premier livre pour alimenter le débat, un thème d'actualité en raison du récent salon de l'agriculture et en décalé avec les discours péremptoires des politiques et des lobbies, la question du remembrement. Rappelons que l'autrice, Inès Leroux, avait publié « Algues vertes, l'histoire interdite chez le même éditeur ». Elle avait reçu des menaces, elle a du courage, elle récidive. Marie nous présente ce nouveau livre et comme à l'accoutumée, comme à la cour, c'est un thème, c'est un enregistrement. Frédéric, on y va ? Ça arrive là ?
Oui.
Ouais.
Alors aujourd'hui, nous présentons la revue dessinée Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement par la documentariste Inès Leroux et le dessinateur Pierre Vanov, avec la collaboration de Léandre Mandard, qui est doctorant au Centre d'histoire de Sciences Po Paris et qui rédige une thèse sur le remembrement en Bretagne. Donc, c'est paru aux éditions Delcourt, collection La Revue Dessinée, et paru en novembre 2024. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le remembrement ? Après la Deuxième Guerre mondiale, la France ambitionne de devenir une grande puissance agricole mondiale. Dès 1946, l'État s'attelle à faire redessiner les terres agricoles dans une grande partie des campagnes du territoire afin que les champs soient accessibles par des chemins carrossables et cultivables par des machines. De cette manière, les petites parcelles morcelées sont regroupées pour en former des grandes. Les haies, les talus et les vergers sont rasés au profit des fermes qui se développent considérablement, mais le bonheur des uns fait le malheur des autres, puisque les petits paysans se sont retrouvés privés de leurs terres fertiles, qui étaient pour eux un moyen de subsistance. Pendant 4 ans, Inès Leroux, qui s'était déjà fait remarquer positivement, bien sûr, par son ouvrage « Les algues vertes, l'histoire interdite », paru en 2019 et que nous avions déjà eu l'occasion de commenter dans une précédente émission. Donc Inès Leroux a enquêté sur le terrain et recueilli de nombreux témoignages sur l'impact sociétal et environnemental du remembrement. Ce récit graphique, agrémenté par un dossier d'archives, met en lumière tout le processus du remembrement depuis son expérimentation en 1912 dans les Vosges, où les paysans s'y opposaient déjà très fortement à cette période, en passant par la loi de 1941, qui, adoptée sous le régime de Vichy, donnait déjà tout pouvoir à l'État pour imposer le remembrement. Après la Deuxième Guerre mondiale, les agents du remembrement et élus locaux font la promotion donc, du remembrement en mettant en avant des arguments qui n'ont pas été contestés sur le moment, comme la modernisation du modèle agricole, la lutte contre la désertification des campagnes et l'exode rural. À Fégréac, en Loire-Atlantique, l'expérience du remembrement a eu un goût amer pour de nombreux locaux, dont les parcelles de pommiers qui servaient notamment à la fabrication du cidre ont été remplacées par des lots de terre parfois plus grands, mais peu rentables en raison du fort taux d'humidité présent dans la terre. Les pouvoirs publics sont restés sourds face aux réclamations qui ont été faites par les paysans lésés par ce remembrement, et ce malgré les recours portés au Conseil d'État. Une répression policière a d'ailleurs été menée contre les paysans révoltés par ce nouveau système de répartition des terres qui leur a été imposé sans équité. Avec l'arrivée de la guerre froide et la signature du plan Marshall, particulièrement favorable aux États-Unis en 1947, la France accélère sa politique de remembrement esquissée sous Vichy. Et il est intéressant de noter que d'anciens collabos qui faisaient partie de la corporation paysanne dissoute par le général de Gaulle ont été nommés à des postes importants au sein de la FNSEA, syndicat majoritaire des agriculteurs français, c'est d'ailleurs toujours le cas, et qui a joué un rôle important dans le processus du remembrement. L'agriculture intensive croissante qui a découlé du remembrement a fortement impacté la paysannerie entre 1946 et 1962, soit une période de 16 ans, car le nombre de paysans et de salariés agricoles a diminué de moitié. Le remembrement a provoqué de nombreuses tensions dans le monde rural, entre ceux qui étaient favorables pour augmenter le rendement et ceux qui étaient opposés, étaient considérés comme réfractaires à la modernité, alors qu'ils défendaient une agriculture vivrière traditionnelle, non soumise aux engrais chimiques et aux pesticides. Le remembrement a considérablement modifié la topographie des paysages ruraux. Les déboisements et les déracinements ont permis la formation de champs à perte de vue, ce qui n'est pas sans conséquence sur la qualité des sols, qui sont devenus beaucoup plus perméables en fait. Hein. Les lois d'orientation agricole de 1960 et 1962 ont fortement contribué à l'abandon des fermes par les paysans qui ont été encouragés à partir, hein, en contrepartie du versement de l'indemnité viagère de départ, ce qui arrangeait bien l'industrie à l'époque, hein, qui manquait de main-d'œuvre dans les usines. Et le remembrement, en fait, a quand même permis à la France de se positionner en premier pays agricole d'Europe au début des années 60, par le biais notamment de la politique agricole commune, mais toujours au détriment de la population paysanne qui est en grande souffrance, hein, car soumise à une trop forte pression. Et d'ailleurs, de nombreux agriculteurs ont commencé à se suicider dans ces années-là. Et dans les années 1970, en Bretagne, certains paysans ont tout de même su se mobiliser contre le remembrement, par exemple le Front socialiste autogestionnaire breton qui milite également pour l'autonomie de la Bretagne.
Donc c'est un livre.
Donc voilà, c'est un livre tout à fait intéressant, hein, qui explique bien en fait tout l'impact du remembrement, donc d'un point de vue sociétal et environnemental, hein, car oui, c'est en fait aujourd'hui il y a même un retour en arrière, hein, avec le changement climatique. On voudrait changer un petit peu le point de vue, mais bon, c'est très compliqué, car évidemment la FNSEA a quand même contribué, il y a eu un lobbying tel, comme il y a eu d'ailleurs pour les algues vertes. Et oui, c'est vrai que Inès Lérault d'ailleurs a subi quand même une certaine pression, hein, de la part de ce syndicat, hein, bien sûr.
À l'occasion des algues vertes, de son livre sur les algues vertes. Mmh. Et là, je pense que ça sera à peu près du même tonneau.
Oui.
Donc on rappelle le livre « Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement », oui, d'Inès Lérault et de Pierre Vanhove. Mmh. Et c'est sorti aux éditions Delcourt. Merci.
Voilà, toujours dans cette partie pour alimenter le débat, un livre sur une île et sa culture, la Martinique. Mais avant de laisser la parole à Agnès, qui, elle aussi, est enregistrée, j'ai des petits soucis de santé, je voudrais souligner la victoire des habitants de la Martinique et de la Guadeloupe par rapport au chlordécone. Vous vous rappelez peut-être que nous avions reçu un auteur et un sociologue pour nous parler de la question du chlordécone, cette pollution dramatique sur ces îles due à la culture intensive de la banane. Eh bien, la Cour administrative d'appel de Paris, puisque l'affaire a été déplacée, la Cour administrative d'appel de Paris a reconnu la responsabilité de l'État. Nous y reviendrons sur le site du Monde Libertaire. On fera une synthèse de la décision de justice. Pour le moment, écoutons Agnès nous parler du temps des Madras de François Zéga.
En plein ventre, écrit par Charlotte.
Alors, je reprends le micro, c'est Frédéric, c'est Agnès V2, c'est bon ? C'est parti.
Bon, c'est pas vrai, il part pas.
Là, ça part pas. Bon, écoutez, voilà, on va... écoute Fred, on va passer... Je vais présenter un autre livre en attendant. Donc la question de, enfin, un livre qui a été écrit il y a quelque temps déjà par Bertrand Russell. Nous passons à la réédition de ce livre qui touche à l'histoire, mais aussi à la réflexion qui est la nôtre aujourd'hui. L'histoire nous sert à rester vigilants. Alors, quel personnage Bertrand Russell ? Personnage étonnant puisque c'est un conte. Un conte noble, mais cette mention lui déplaisait, et gardons de lui son œuvre de philosophe, de logicien, de mathématicien, sans oublier son action en faveur de la paix, de la démocratie, et son sens de la critique nuancée, mais parfois tranchée, d'humour so-british. Et les éditions Les Belles Lettres ont eu la bonne idée de publier pour la première fois en français ses essais impopulaires. Alors Bertrand Russell nous livre dans sa préface ses intentions. La plupart des essais qui suivent, je cite, « écrits à différentes époques, au cours des 15 dernières années, ont pour but de combattre, d'une façon ou d'une autre, la poussée du dogmatisme de droite comme de gauche » qui jusqu'à présent a caractérisé notre siècle tragique. Tragique. Qu'utiliserait-il comme adjectif aujourd'hui ? En effet, la vigueur des propos, la dénonciation des idéologies totalitaires, des perversions religieuses, n'exclut pas un style léger, des termes accessibles. Un clin d'œil à George Orwell, d'ailleurs, pour certains de ses romans et nouvelles. Oui, la lecture est aisée, démontrant qu'un grand intellectuel peut écrire lisiblement avec des exemples concrets. Le premier titre du livre, c'est « Philosophie et politique ». Une opposition frontale ou une exhortation illusoire ? Philosophie et politique, est-ce possible ? Le problème fondamental, dit-il, de l'éthique et de la politique consiste à trouver une façon de concilier les besoins de la vie sociale avec l'urgence des désirs individuels. Une approche risquée. Ainsi, Russell souligne que là où un gouvernement existe, le droit pénal peut être utilisé afin de prévenir une action antisociale venant de ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement. Et la loi peut renforcer avec la religion et cette alliance partout où celle-ci enseigne que la désobéissance est une impiété. L'utilisation du droit pénal à des fins antisociales, je trouve que cette réflexion est d'une actualité rare. Mobilisant les philosophes depuis l'Antiquité grecque, Russell constate que le changement est une chose, le progrès en est une autre. Le changement est scientifique, le progrès est éthique. Le changement est indubitable, tandis que le progrès est matière à controverse, là aussi, tout à fait d'actualité. Sa vie durant, Russell s'affiche libéral. Le credo libéral, en pratique, est celui du vivre et laisser vivre, de la tolérance et de la liberté, pour autant que l'ordre public le permet, de la modération et de l'absence de fanatisme dans les programmes politiques. Ses propos à l'égard de la religion sont féroces, notamment en ce qui concerne les guerres de religion. Les idéologies de son temps, selon lui, remplacent ces mêmes religions. L'absence de réflexion, de nuance, peut inquiéter quant à l'avenir de l'humanité. Va-t-elle vers son extinction, cette humanité ? Le retour à la barbarie, après une diminution catastrophique de la population mondiale ? Une unification du monde sous un gouvernement unique, qualifiable de totalitaire ? Ces trois hypothèses sont indéniablement à rejeter et il faut travailler à éradiquer la dimension totalitaire de cette dernière hypothèse. Russell s'interroge. Comment être moderne ? En gardant son indépendance d'esprit et son objectivité ? Oh, pas si facile. Et l'auteur donne un aperçu redoutable dans son essai consacré aux falaises intellectuelles que l'être humain est capable de produire. Je cite encore. « Je suis convaincu qu'il n'existe absolument aucune limite aux absurdités qui peuvent, par l'action d'un gouvernement, être crues d'une manière générale. » Ces pages sont elles aussi étonnamment actuelles, notamment dans l'utilisation d'une armée. Là aussi, un clin d'œil à Orwell. Y a-t-il un espoir ? Le texte, qui s'intitule « Les fonctions d'un enseignant », illustre bien le rôle de cette profession, alliant compétences techniques et pédagogiques. Il récuse la notion de propagandiste obéissant aux ordres d'un ministère. Intéressant, ça. L'enseignant, comme l'artiste, le philosophe ou l'homme de lettres, ne peut accomplir sa tâche de manière satisfaisante que s'il se perçoit lui-même comme un individu mu par une impulsion créative interne, pas s'il est dominé et bridé par une autorité extérieure. Hein ? Intéressant, ça. Dans des idées qui ont aidé l'humanité, et ça c'est un autre chapitre, et dans des idées qui ont nui à l'humanité, Russell démontre que les êtres humains se révèlent anges et démons, mais que l'espoir doit guider l'esprit. Je crois qu'en ce moment, l'espoir doit indéniablement guider l'esprit. Ne manquez pas de lire sa nécrologie qu'il a rédigée de son vivant. Je trouve que c'est assez british dans la démarche. Il a écrit cette nécrologie en 1937 et un texte aussi qui est assez précieux. Pourquoi je ne suis pas communiste ? Je rappelle les références du livre, donc Bertrand Russell, Essai impopulaire, aux éditions Les Belles Lettres, en 2024. Alors Frédéric, nous allons tenter une aventure. Est-ce que nous pouvons passer une pièce d'Éric Satie, une carte blanche à Anne Kefelec ? Oui, c'est parti. Non ? Non, c'est pas parti. T'embêtant, Fred, là, quand même, ça fait le deuxième truc qu'on n'arrive pas à passer. Je suis vraiment désolé, chers amis, parce qu'on doit passer plusieurs enregistrements, là, et puis apparemment, il y a encore un problème technique sur cette radio. Bon, ben, comme je ne vais pas laisser le blanc s'instaurer, je vais vous donner lecture du texte qu'Agnès avait prévu de nous présenter. Il s'agissait d'un livre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui concerne une île et sa culture, la Martinique. et j'avais souligné que, eh bien, il y avait une victoire juridique, bon, toujours temporaire, hein, devant la Cour administrative d'appel de Paris concernant le chlordécone. Bon, alors, on n'est jamais à l'abri d'un pourvoi en cassation près le Conseil d'État par l'État qui ne voudra pas, évidemment, assurer sa responsabilité. Et le livre qu'Agnès voulait nous présenter s'intitule « Le temps des madrasses ». L'auteur, c'est Françoise Ega, aux éditions Luxe, en 2025. Alors, les éditions Luxe, bon, on connaît, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Cette maison d'édition québécoise, basée à Montréal, d'inspiration libertaire, nous propose ce roman autobiographique de Françoise Ega, née en 1920 et décédée en 1976. Françoise Ega était ouvrière, écrivaine et une activiste sociale martiniquaise. Elle est connue en Martinique, comme à Marseille, où une rue, du reste, porte son nom. Ville où elle vécut pour ses luttes contre l'injustice, les préjugés raciaux, la haine, l'intolérance et en luttant contre l'illettrisme. Le temps des madrasses est écrit d'une main d'enfant, souligne Agnès, dans une famille paysanne à Morne-Rouge, au pied du Mont Pelé à la Martinique dans les années 20. Son père, fils d'une mère née esclave, décéda prématurément. Il fut un ancien soldat de la Grande Guerre aux Dardanelles, la Grande Guerre, celle de 1914-1918, et sa mère, plutôt que de se plaindre, dira, je cite, « Mettez des légumes dans la marmite, j'ai promis à mon mari, que ses enfants mangeraient. » Un roman fascinant qui plonge dans les réalités culturelles et sociales de l'époque. La force de la tradition, l'importance donnée aux légendes, aux sorciers, aux quimboiseurs, les voyantes, et puis la place de l'Église pour conjurer les angoisses, et puis la vie et les épreuves d'Élisa, d'Assé, d'Armand, son frère, et les autres de sa fratrie. C'est à la fois un roman qui nous fait rentrer dans la vie de la Martinique, et c'est aussi un roman qui nous fait rentrer dans la vie de cette famille et de ses proches. La rencontre avec Azou, le géant, couleur noire ébène, d'origine guinéenne, qui se remémore, comme beaucoup, le passé d'esclave de leur famille, les chagrins, les colères que sa mère écarte en disant, je cite, « Il ne faut pas regarder en arrière pour ne voir que les cailloux laissés sur le chemin, mais en avant. Et il y a tant d'espoir dans nos descendants qu'il ne faut pas les empoisonner avec des choses que toi, tu n'as jamais connues. » Vous lirez l'obstination et le sacrifice de cette mère pour que ses enfants aient une éducation et aillent à l'école. Et bien qu'à 8 kilomètres, avec des petits souliers qui leur faisaient mal aux pieds. La fierté et la réussite de son fils, le départ à la ville pour accompagner coûte que coûte la réussite de sa fille aînée, l'écrivaine Françoise Ega. Françoise Ega nous livre des moments intimes et bouleversants, les pressions exercées sur les femmes en particulier. Une petite anecdote pour conclure, comme le relève Agnès dans son commentaire, l'importance du madras. Le madras, ce morceau de tissu très coloré, porté par toutes les femmes de l'époque, était leur fierté et marque toujours aujourd'hui l'identité culturelle de la Martinique. Un livre d'un grand humanisme et tellement authentique. Je rappelle le titre, « Le temps des madrasses » de Françoise Ega, paru aux éditions Luxe. Alors Frédéric, est-ce que ça va mieux maintenant ?
Oui, ça va beaucoup mieux, un petit problème
alors,
informatique.
Est-ce qu'on peut écouter Cassav, je saurais me lever.
Thank you.
Alors, puisque nous avons réussi à récupérer les morceaux de musique que nous souhaitions vous faire passer, nous allons désormais entrer dans notre séquence « Un moment d'histoire » avec Frédéric. Oui, celui-ci va nous présenter un livre consacré à la plèbe romaine. Ah, voilà, qui me rappelle mes cours de latin au collège et au lycée. Alors, Frédéric, cette plèbe, de quoi s'agit-il ?
Ah bien, après quelques petits déboires techniques dont je m'excuse, les ordinateurs ne sont pas toujours très fiables. Hein, comme quoi, l'intelligence artificielle et ainsi de suite, on en repassera. Rien ne vaut plus que l'humain.
Voilà.
Voilà. Alors, en effet, un peu de sérieux quand même, parce que c'est un livre sérieux, mais en même temps très plaisant. Alors, je vais vous souhaiter déjà un bonjour, chers auditrices et auditeurs. Cette semaine, eh bien, je vous emmène à Rome. Non pas en Italie, mais à Rome, dans l'Empire romain. On va faire un bond en arrière entre moins 2500 ans avant notre ère et moins 1900 ans avant notre ère. Le livre « La plèbe, une histoire populaire de Rome » de Nicolas Tran m'a transporté dans l'histoire de la Rome antique. Mais pas n'importe quelle histoire, pas la grande histoire, celle des empereurs, des impératrices, des Césars. Non, celle de la plèbe. Eh oui, la plèbe, ce mot, le mot plèbe, ne saurait à lui seul cerner une réalité sociale de l'époque. En effet, ce livre nous permet de comprendre ce qu'est la plèbe et ses multiples conditions, parce qu'il y avait en quelque sorte plusieurs façons de vivre en étant qualifié de plèbe. Le livre ne parle pas d'ailleurs que de la plèbe, mais aussi de la condition des esclaves, des affranchis et des ingénus. Les ingénus, eh bien, vous le saurez ce que c'est en le disant, ce livre. D'ailleurs, qui peut prétendre faire partie de la plèbe ou pas ? Eh oui, c'est une question. L'organisation sociale de Rome, c'est tout un monde. Il y a des artisans, des marchands, il y a des fêtes, des rites religieux, des ancêtres d'associations professionnelles, eh oui, comme des clubs un petit peu, les arènes, des espaces verts comme des parcs où l'on peut faire du sport et où on fait du sport. Et il y a aussi des révoltes. Rome, c'est aussi une ville, une géographie, des rues, des forums, des quartiers, des bâtiments de plusieurs étages avec des cours intérieurs et déjà des bailleurs. Les plus pauvres survivent. On ne fait que survivre dans la rue, en fait. On ne vit pas dans la rue. Rome est aussi une population venant d'un peu partout, venant de l'Empire romain et de plus loin encore. À son apogée, Rome abritera le chiffre considérable d'un million d'habitantes et d'habitants. Pour l'époque, c'était quand même énorme. Outre l'organisation sociale, comment vit-on ? Quand on fait partie de la plèbe à Rome, dans quel quartier ? Où mange-t-on ? Chez soi ou dehors ? Quelles sont les distractions ? Bien sûr, on ne se mélange pas entre classes sociales, même dans les lieux publics, tout est codifié. La plèbe représente une opinion, un poids politique. En lisant, vous comprendrez comment est représentée la plèbe. Elle a ses représentants. Et c'est sous ces différentes périodes de Rome que la République, l'Empire et ses empereurs ont vécu ensemble et toujours en prenant en compte la plèbe. Comme vous l'aurez compris, ce livre décrit tous les aspects de la ville de Rome et même les périodes de deuil, la vie des couples, la mortalité infantile, les rapports enfants-parents. En lisant cet ouvrage, vous aurez une vision très complète de la vie à Rome dans l'Antiquité et aussi bien la vie sociale que la vie quotidienne et intime des Romaines et des Romains. Ce qui m'a beaucoup plu et je me suis dit enfin un livre qui ne traite pas que de la vie des grands de l'histoire. Certes, en lisant ce livre, vous aurez des passages qui citent des empereurs, mais juste pour replacer le contexte historique, pour comprendre la vie de Rome qui se lève tôt. Vous serez intéressé probablement de savoir que les pouvoirs successifs se souciaient beaucoup de la question du ravitaillement de Rome, car ils savaient ce qu'il en coûtait en cas de famine, et vous lirez comment. Ce livre vous prend par la main et vous fait visiter Rome, vous fait connaître ses habitantes, ses habitants, vous fait voyager dans le temps. C'est ce que j'ai aimé dans ce livre, un livre qui se met à hauteur de nous, les habitantes et les habitants d'autres villes à une autre époque. Alors que j'aimerais beaucoup lire ce genre de livre parlant d'autres villes à d'autres époques, mais je n'en connais pas, c'est bien dommage, ou pas encore. Vous voulez connaître, apprendre, voyager dans l'espace et dans le temps, ce livre est fait pour vous. Il est facile d'accès, tout le monde peut le lire, et peut se lire sans connaissance préalable, comme moi je n'en avais aucune. Alors je vous donne les références de ce livre, que je vous conseille d'ailleurs. La Plèbe, une histoire populaire de Rome. L'éditeur est Passé Composé. C'est un livre de Nicolas Tran. Et il est bien sûr disponible ou en rayon ou en commande à la librairie Publico. Maintenant, nous allons écouter Eric Satie, Gnosienne numéro 1. Oh là là, j'accroche. Pardon, excusez-moi.
Ouais, parce qu'après, je vais avoir...
Bien, j'espère que vous avez goûté cette merveilleuse interprétation par la non moins merveilleuse Anne Kefelec. Et toujours en histoire, puisque Frédéric nous disait qu'il aimerait bien entendre parler d'autres livres, parlant d'autres villes à d'autres époques. Eh bien, toujours en histoire, parlons d'une autre capitale, Paris. Ah, vous savez combien Paris. On aime Paris ici, Paris et son ou ses langues. Eh oui, quelle langue, quel français. D'où viennent ces mots que nous utilisons? D'où viennent ces sons qui animent notre langue, l'enrichissent depuis tant de temps? Le latin, bien sûr. Il n'est pas question de nier le poids de cette langue majeure dans la construction de nombreuses langues européennes, mais il serait absurde d'ignorer les mots antérieurs au latin et tous ceux qui ont accompagné, enrichi, comme je l'ai dit précédemment, le français. Comme le relevaient Lucien Febvre et François Crouzet dans leur livre « Nous sommes des sans-mêlés », réédité chez Albin Michel en 2012, les cultures s'enrichissent des apports extérieurs et la nôtre, la française, autant que les autres. Il en est ainsi, donc, de notre langue. Gilles Siouffi, dans son ouvrage « Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville-monde », publié chez Actes Sud en 2024, nous invite à un passionnant voyage dans le temps et l'espace, à la découverte de l'histoire du français, loin des conceptions conservatrices et sclérosées. Paris, la ville capitale, celle où se construit le français, vous savez, il n'est bon bec que de Paris, dixit François Villon. Paris a en réalité été tout au long de son histoire un creuset de langues, d'idiomes, de parlers divers, une véritable Babel. Donc il n'y a pas que, en fait, il n'y a pas que Paris, mais il y a les apports qui se créent. Et ces Parisiens, qui sont-ils? Ils véhiculent des mots gaulois, des mots de la terre. Tenez, sapin, bruyère, chamois, alouette, charrue, boue, ruche, ça vient du gaulois. De parler se côtoient après la conquête par César. Le latin est un idiome pour les échanges oraux, le commerce le long de la Seine, par les nautes, N-A-U-T-E-S. La langue française émerge et avec Childéric, Clovis, le latin s'enrichit. Gilles Siouffi relate l'histoire de Paris, des événements comme les attaques des gens du Nord, les Normands, mettent en valeur le norrois avec des mots comme le hauban, l'esquif, le hangar. La ville devient centre universitaire, 10 000 étudiants pour 100 000 habitants, c'est énorme. Villon, je l'ai déjà mentionné, est l'exemple type. Mais d'autres langues que le latin réservées à la religion, aux études, à la justice, s'installent à Paris comme le picard, le champenois, l'occitan. Et dès la Renaissance, le souci d'établir des normes émerge. Ainsi, l'édit de Villers-Cotterêts, en 1539, dans cet édit, François Ier demande que les actes soient formulés, je cite, « en langage maternel françois et non autrement ». Comment l'écrire? Mais aussi comment le parler, ce François? L'épicentre du français est-il à Paris ou en Touraine? Il faut le talent de Gilles Siouffi pour nous guider dans les apports des Italiens, les Lombards, ceux qui accompagnent Catherine de Médicis, ceux des Gascons avec Henri IV et tant d'autres. L'Académie française, instituée par Louis XIII en 1535, contribue à cette uniformisation dans les hautes sphères. Mais le peuple parle l'argot de la cour des miracles, le jargon. Le jargon, c'était en fait l'argot. Voilà, les dialectes. Et Vaugelas défend le bon usage de la langue qui serait celui de la cour. Oui, mais le français devient cosmopolite. Il est un passeport en Europe. Il s'enrichit encore de mots anglais, italiens, les cours royales européennes le parlent et le comprennent. La presse du XIXe siècle participe à la diffusion de la langue dans les provinces comme à l'école. Des parlers disparaissent. À Paris, des quartiers regroupent des étrangers, ceux qui sont nés hors de Paris, par nationalité, les Russes par exemple, par origine, les Juifs de Belleville, de Benjamin Schleving, publié aux éditions de l'Échappée, c'est un livre que nous avons commenté sur le site du Monde Libertaire, ou par région, les Savoyards, les Auvergnats. Les arts favorisent les échanges, comme à Montparnasse, à Montmartre. Paris éclairait le monde, pour reprendre le titre du livre de Mathieu Lebal, publié chez Albin Michel. Mathieu Lebal, nous l'avions accueilli dans cette émission et nous avions parlé de son livre. L'enrichissement de la langue vient aussi des colonies françaises, des gens du voyage, les Romanies. Et je rejoins tout à fait l'auteur lorsque, s'imaginant flâneur baudelairien dans les rues de Paris et s'interrogeant sur la langue pratiquée, il constate, je cite, « l'éventail est gigantesque, tout est possible, ce Babil infini, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est aussi ce qui forme une cité ». J'ajouterais que ce livre est un plaisir intellectuel, un feu d'artifice de références livresques, culturelles, une invitation à revivre l'émergence et la richesse de notre langue, le français. Je rappelle les références. Gilles Siouffi, Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville-monde aux éditions Actes Sud, en 2024. Et nous allons écouter Marc Lavoine interprétant Paris. C'est parti.
Dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Je me réveille dans tes bras, sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes cinés, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare, je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air et moi de quoi j'ai l'air. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Dans tes rues, tu me marches sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots.
Et venons-en à l'art avec Agnès. Elle présente une artiste, Nikit Saint-Phal, dans un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Atelier Henri Dougier. Alors laissons la parole à Agnès.
En plein ventre, écrit par Charlotte Barberon aux éditions Atelier Henri Dougier. Charlotte Barberon est une écrivaine passionnée de poésie et de montagne. Agrégée de lettres, elle enseigne le français dans des classes CHAP, classes destinées aux élèves intéressés par l'histoire de l'art et la pratique artistique. C'est lors d'une exposition en 2015 au Grand Palais qu'elle découvre Niki de Saint-Phalle, exposition qui sera renouvelée en juin 2025 sur le même site et dans d'autres salles et d'autres villes. Une mise en situation s'impose, oui, pour se repérer dans le temps et le milieu où naquit Niki de Saint-Phalle, ou plus exactement, Marie-Agnès de Saint-Phalle. Elle est née un 29 octobre 1930, un an après le départ précipité de sa famille des États-Unis, ruinée par le crash boursier de 1929. Son père a alors dû renoncer à sa banque new-yorkaise Saint-Phalle & Co., dont il était propriétaire. Niki eut de ce fait une enfance chahutée et ballottée entre ses parents et ses grands-parents, grands-parents qui vivaient dans des châteaux élégants et mystérieux et qui lui lisaient des légendes anciennes. Sa mère ne lui cachera pas dès son plus jeune âge son désintérêt pour elle depuis sa grossesse, des mots odieux pour une enfant en manque d'affection. Leurs rapports resteront conflictuels et agressifs, voire provoquant de toutes parts. Niki manifestera sa tristesse en multipliant les accès de colère et chez ses parents et dans les diverses écoles où elle fera ses études. Elle en changera souvent. Sa colère sera telle qu'elle dira, je cite, « Je n'ai pas besoin de vous, maman. » Les traumatismes ne feront que se multiplier jusqu'au viol de son père à l'âge de 11 ans, qu'elle enfouira dans son inconscient. À 18 ans, elle épouse Harry Matthews, écrivain, et après la naissance de leur premier enfant, Laura, ils s'installent en France, à Menton. Cette naissance la mettra dans une dépression si grave qu'elle sera internée en hôpital psychiatrique. Elle se mettra à peindre et couchera sur le papier les faits et les monstres de ses pensées. Lorsqu'elle essaiera, preuve à l'appui d'appuyer les raisons de ses troubles dus au fait de ses agressions, en particulier le viol de son père, les preuves en seront détruites. Nous sommes encore dans une époque où ces faits sont irrecevables et éteints. À sa sortie, ils iront de voyage en voyage. Elle accumulera autant d'émerveillements devant les sculptures de Gaudi, mais aussi l'étoile de Goya, de Bosch, en Espagne, et puis le facteur cheval et son palais merveilleux à son retour en France, des artistes qui lui donnent envie d'exprimer son art enfoui. C'est pour toutes ces raisons qu'elle quittera son couple et ses enfants, retournera dans ses ateliers parisiens, retrouvera Jean Tiguilly, qui la présentera à d'autres artistes, à des directeurs de musées. Son œuvre se développera très vite et avec un grand succès. Charlotte Barberon nous plonge dans l'émotion de tous ces instants de vie, d'une main de maître elle aussi, avec l'écho des violences du passé, les remords d'abandon de ses enfants et de son époux. Mais surtout, l'écrivain nous entraîne dans la recherche de Niki. Tous les facteurs sont là, son admiration pour Gaudi, sa passion pour le facteur cheval. On est spectateur de sa construction, de ses créations, comme les tirs sur des toiles tapissées de boules de plâtre, de sacs de couleurs qui explosent. Je cite, « Je tire sur moi, sur la société et avec ses injustices. Je tirais sur ma propre violence et la violence de l'époque. En tirant sur ma violence, je n'aurais plus à la porter comme un fardeau. » Puis des nanas, de grosses et grandes sculptures de corps de femmes, aux seins puissants, aux cuisses largement ouvertes ou mêlées, dansant, sautant, courant dans l'espace. Bénédicte, Erika, Laure, Nathalie, Eva, Jackie, Elisabeth, Lily, multicolore. Je cite, « C'est le désir de voir les hommes plus petits que ces énormes femmes. C'est le désir d'écraser le sexe mâle qui, dans cette société, nous opprime. C'est aussi aller vers les émotions, vers les choses que nous écrasons, vers la sexualité, vers la puissance régénératrice de la femme mythologique. Jusqu'à l'exposition de la femme cathédrale, on, à l'initiative de Pontus Hultén, directeur du musée d'art moderne de Stockholm, où elle créera avec Jean Tingeli, père Olof Hultvelt, une gigantesque femme enceinte, allongée sur le dos, à l'intérieur de laquelle les spectateurs pénètrent grâce à une ouverture entre ses jambes. En entendant donc l'exposition Niki de Saint-Phalle, Jean Tingeli, Pontus Hultén, au Grand Palais de juin 2025 à janvier 2026, je vous invite à lire ce roman. En plein ventre, écrit par Charlotte Barberon, aux éditions Atelier Henri Douget.
Thank you.
bien voilà, nous venons d'écouter un extrait de L'Oiseau de feu de Stravinsky, interprété par l'ensemble Les Siècles. C'est un choix d'Agnès qui trouvait que ça allait bien avec le livre qu'elle avait présenté. Je suis assez d'accord. Alors nous allons aborder maintenant avec notre invité un livre de combat. Troisième temps de l'émission, dialogue donc avec Hélène Hernandez. Et bah, vous la connaissez, Hélène, hein, et exceptionnellement, l'entretien est en troisième partie parce que comme elle anime l'émission qui suit, la célèbre émission Femmes Libres, bon, on a trouvé que c'était plus utile et plus pertinent de l'organiser de cette manière-là. Alors, Hélène Hernandez, bonjour.
Bonjour, puis merci de m'accueillir. Hein.
En effet, tu animes l'émission Femmes Libres juste après la nôtre. Tu es militante de l'AFA, tu as publié de nombreux ouvrages, des livres, des articles sur les combats des femmes. Bon, on pourrait citer celle de 14, la situation des femmes au temps de la Grande Boucherie, publiée aux éditions Libertaires en 2015. Il est toujours disponible, cet ouvrage?
Oui, absolument. Oui.
Bon,
oui.
On peut évidemment l'avoir à Publico. Et un nouvel ouvrage, La guerre contre les femmes, Les femmes contre la guerre, publié aux éditions du Monde Libertaire en novembre 2024. Tout d'abord, un constat sur la couverture. Moi, j'aime bien parler des couvertures. Alors, c'est une illustration de notre ami Tardy. Un paysage déchiqueté par les obus, les combats. Un char de la guerre de 14 renversé. Et une femme, le regard désespéré, pieds nus, dans la boue, poussant une brouette dans laquelle sont assis deux enfants. Pourquoi cette image forte, par ailleurs? C'est ton choix?
Alors, c'est mon choix, oui, d'avoir demandé à Jacques Tardy un dessin. Mais Tardy fait peu de dessins de femmes. Et puis, il n'était pas dans une bonne période. Et du coup, c'est Dominique Grange qui a cherché et qui a trouvé ce dessin-là. Et quand elle me l'a proposé, bah, ça m'a plu tout de suite, quoi, voilà. Alors, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que il y a le dessin de Tardy sur la première et sur la quatrième de couverture. Et ça, c'est le travail de Holt, hein, qui a fait la à partir du dessin de Tardy.
Alors,
qui a fait la couverture. Alors, Holt, il signe Holt, mais ça veut dire Olivier Le Trouère.
D'accord. Voilà.
Et je trouve que c'est parfaitement réussi. En tout cas, ça me plaît beaucoup.
Oui, c'est vrai qu'un livre, on a envie de le lire s'il nous plaît dès la couverture. Bon, voilà. Alors, il y a des maisons d'édition qui font des couvertures d'une sobriété totale. Mais là, je trouve effectivement, ça donne envie. Bon, voilà. C'est très réussi, comme tu le dis. Maintenant, présentons l'ouvrage. Pourquoi ce livre et de quel texte est-il composé?
Alors, en fait, c'est une commande des éditions du Monde Libertaire. Philippe avait donc repéré...
Philippe,
le responsable des éditions du Monde Libertaire. Il avait repéré que j'écrivais pas mal d'articles et qu'au fil des années, il y avait des articles sur la guerre et les femmes. Hein, mmh. Voilà. Et dans le Monde Libertaire, particulièrement... Donc, il m'a demandé de rassembler ces articles-là et d'en faire un livre. Alors, moi, je n'avais jamais fait ça, hein, jamais. Donc, j'ai choisi quelques articles, pas tous les articles que j'avais écrits. J'en ai choisi quelques-uns, je les ai lus au moins trois fois. Et puis après, ben, j'ai fait des liens, c'est-à-dire des introductions. Voilà. Et donc, il y a trois parties. La première, ce sont des textes qui sont écrits par des femmes anarchistes. Alors, on peut citer Emma Goldman, Hélène Brion, Nelly Trumel, et puis une syndicaliste des IWW, donc un syndicalisme anarcho-syndicaliste.
Hein. Alors, on pourrait dire, bon, Emma Goldman, je pense que sur les ondes, on connaît, mais Hélène Brion.
Alors, Hélène Brion, c'est une institutrice qui était syndicaliste, féministe, anarchiste, et qui s'est retrouvée, elle, qui ne faisait pas partie de l'armée, qui s'est retrouvée devant le conseil de guerre pour défaitisme. voilà, c'est toujours un peu bizarroïde qu'une femme se retrouve devant un conseil militaire. Ouais. Hein,
et puis, il y en aura, parce qu'on reviendra sur Hélène Brion, mais Nelly Trumel, bon, on en reparlera aussi. La syndicaliste des IWW, c'est quoi ?
Eh bien,
c'est un syndicat.
C'est un syndicat, comme je l'ai dit, anarchiste, anarcho-syndicaliste.
En Amérique, aux États-Unis.
Aux États-Unis et pas que.
Mais
plutôt,
pas que. Ouais.
On va dire plutôt dans le monde anglo-saxon.
Oui.
Hein, voilà. Elle se promenait dans divers pays et en particulier vers le Japon, la Corée, voilà. Et donc elle a ramené des témoignages de ce qui se passait.
Deuxième partie.
Alors la deuxième partie, là, ce sont des articles que j'ai écrits et qui visent à montrer les multifacettes en fait de la guerre vis-à-vis des femmes. Mmh. Enfin, vis-à-vis, à l'encontre, je devrais dire, des femmes. C'est-à-dire toutes les violences, qu'elles soient militaires, bien sûr, mais patriarcales, religieuses et capitalistes. Et tout ça, ça se mêle ensemble. Hein, militaires, on sait bien que il faut acheter des armes, des canons, des, voilà, et que ça nourrit bien le monde capitaliste. Hein, sans aucun problème. Patriarcal, bah, ce sont les hommes qui vont à la guerre et qui font la guerre et qui décident de la guerre. Mmh. Hein. Et puis religieux, bah, de temps en temps, c'est bien aussi d'utiliser la religion pour opprimer encore davantage les femmes. Mmh. Donc voilà. Donc on a en fait des textes sur la guerre avec armes, donc en temps de guerre, mais aussi des textes sur la guerre quotidienne, donc en temps de paix, enfin soi-disant en temps de paix, et je vais reprendre les termes qu'on utilise dans l'émission Femmes Libres, hein, qui oppriment, qui exploitent, qui discriminent, voilà, et ça, les femmes, toute l'année, dans tous les pays du monde, se retrouvent avec cette guerre quotidienne.
Et ça rejoint bien le titre, la guerre contre les femmes, c'est-à-dire que ce n'est pas la guerre en termes de conflit armé, mais c'est la guerre de façon générale, y compris dans la vie quotidienne. Et puis, il y a une troisième partie.
Alors, la troisième partie, bah, ça fait partie aussi du titre. Mmh. C'est que, évidemment, on ne peut pas rester sur un constat. Il faut aussi aller regarder qu'est-ce que font les femmes pendant ces guerres. Mmh. Alors, il y en a qui prennent les armes, bien sûr. Mmh. Hein. On peut penser au Rojava, on peut penser à d'autres endroits aussi.
Le Chiapas.
Voilà, le Chiapas, bien sûr. Mais on voit aussi qu'il y a une solidarité internationale et que les femmes, même dans les pires endroits qui soient, arrivent à être solidaires. Et je pense en particulier à l'éducation. Hein, continuer à éduquer les enfants et dans les enfants, les petites filles. Hein, voilà, même quand tout fait qu'on ne peut pas. Et puis, dans l'énergie nucléaire, les femmes ont largement pris leur place pour dénoncer, hein, et donc elles ont milité, elles se sont mobilisées contre l'énergie nucléaire.
Mais ce n'est pas un livre que sur la guerre de 14, mais sur de nombreux conflits passés, des conflits actuels, certains sont connus, je pense à l'Ukraine, mais il y en a d'autres qui sont oubliés par les médias. Pourquoi ne parle-t-on pas de conflits en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ? Il y en a un petit peu partout, des conflits.
Oui, oui. En 2023, par exemple, on a dénombré 59 conflits. Mmh. Hein, j'ai pas traité les 59 conflits, hein, loin de là. 59 conflits dans le monde. Et particulièrement en Afrique, avec le Soudan, hein, oui. Dont on parle un peu.
On en parle un peu.
Voilà, en Asie, hein, parce que même à l'intérieur de la Chine, il y a une guerre contre, contre des peuples,
oui.
et contre les femmes d'une façon particulière. Et au Moyen-Orient, bon, on en parle un peu, en Europe maintenant, aux Amériques, je dis, aux Amériques, parler de l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud. En fait, pourquoi on n'en parle pas? Enfin, pourquoi les médias n'en parlent pas?
Oui.
Parce que pour en parler, il faut qu'il y ait un intérêt géopolitique. L'Ukraine, c'est un intérêt géopolitique.
Évident.
C'est évident. Oui. C'est la frontière entre l'Occident et la Russie.
Et la Russie.
Voilà. Et puis avec des minerais, et puis avec l'énergie nucléaire. Enfin, voilà. Donc là, il y a un intérêt géopolitique, on en parle. On parle régulièrement, par vague, de ce qui se passe à Gaza. Voilà.
Oui.
Maintenant, Trump voudrait faire une Riviera dans ces endroits-là.
Oui.
Oui.
Est-ce que les femmes subissent à l'occasion de ces conflits cachés ou un peu oubliés?
Les femmes, elles subissent dans tous les conflits. Et c'est pas le 21e siècle, c'est pas le 20e siècle.
C'est
de tout temps. Pendant tous les conflits, la première des choses.
Mais dès que
les viols.
Oui.
Les tortures.
Oui. Alors c'est intéressant parce que sur le viol, je suis intervenu l'autre jour dans une conférence sur la Commune de Paris et j'ai rappelé que, en fait, la question du viol, les femmes étaient violées par les militaires au moment de la Semaine sanglante, mais qu'on en faisait très peu état dans les documents. Lissagaray en parle une fois ou deux dans son bouquin, mais bon, c'est une telle somme, bon. Mais de ce que les femmes subissent, c'est sûr, peu de médias en parlent, hein. Mais alors, toi, tu en fais un long cortège. Tout le monde souffre dans un conflit. Et puis, il y a cette question du viol. Et tu parles d'armes destructrices à cette occasion. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que le corps des femmes, il est utilisé comme arme. Et on l'a bien vu avec la guerre en ex-Yougoslavie, c'était la purification ethnique qui était visée. Hein. Voilà, c'était dans les années, au début des années 90.
Ça fait pas longtemps.
Non, ça
et
fait pas. Et on a encore ça en mémoire.
Oui. C'est fou de penser à cette purification, le terme, la formule purification ethnique, c'est odieux.
Alors, ce que je montre aussi, c'est que pour humilier un peuple, et n'importe quel peuple, hein, eh bien, on va violer les femmes. Et on peut les violer, y compris devant leurs propres enfants.
Oui.
Ça fait qu'on terrorise, évidemment, les enfants, mais on terrorise tout un peuple. Hein. Alors, il n'y a pas... Il n'y a pas que la terreur en temps de guerre, parce que en temps de paix aussi, quand on voit ce qui se passe à la frontière du Mexique avec les États-Unis, hein, à Ciudad Juárez, là qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, c'est pas n'importe qui, ce sont des milices, des mercenaires qui font ça, hein, formés par les ex de l'OAS, hein, voilà, on est tranquille là-dessus.
Oui, hein. On est très bon là-dessus.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chopent des femmes qui reviennent du travail en bus le soir, ils les violent, ils les tuent, ils les démembrent et exposent les bouts
des
de corps de ces femmes le long de la route. Donc là, on voit bien aussi que c'est pour terroriser toute la population. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, qu'il y a plusieurs aspects dans le viol et plusieurs aspects dans l'utilisation du corps des femmes.
Est-ce qu'on les juge, c'est coupable ou pas?
Alors, il y a bien sûr la volonté qu'ils soient jugés. Ça prend énormément de temps. On a vu avec l'ex-Yougoslavie, ce conseil international, ça a pris beaucoup de temps. Mais le procès de Nuremberg, c'est pareil. Hein. On n'est pas sûr d'avoir chopé tout le monde.
On est sûr de ne pas avoir chopé tout le monde, parce qu'on en a réutilisé tant à l'est qu'à l'ouest pour utiliser leurs compétences, et toutes leurs compétences, y compris en termes de torture, etc. Mais en 2019, il s'est passé quelque chose au Conseil de sécurité
de l'ONU. Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU a reculé. Parce que il était prévu de juger les coupables, donc de mettre en place une commission ad hoc, et surtout de protéger les femmes, de les protéger, parce que il y a une réglementation internationale, on doit protéger les femmes et les enfants en cas de guerre. Or, c'est tout l'inverse, évidemment, qui se passe, puisqu'elles peuvent être violées, elles vont se retrouver enceintes. Enceintes, elles vont être exclues de leur propre famille.
Oui, rejetées.
Parce qu'elles ont été violées par, par l'adversaire.
Et leurs enfants.
Donc, là, on voit bien qu'il y a un besoin de protéger les femmes. Non seulement de juger les coupables, et les agresseurs, mais de les protéger aussi.
Alors, on a ces éléments-là. Et puis, dans d'autres cas, elles sont chosifiées, dis-tu, c'est-à-dire vendues comme esclaves, mais, l'esclavage existe apparemment sur un plan international dans trois pays, mais pas en France.
Wow. Il y a aussi... Alors, évidemment, c'est pas dans les mêmes formes, mais c'est aussi insupportable quand une famille riche va aller chercher une fille parce qu'elle est mineure la plupart du temps, ou une femme pauvre, que cette famille prend tous les papiers possibles, c'est-à-dire il n'y a plus de passeport, il n'y a plus rien, ne donne pas de salaire. Il l'a fait dormir dans un placard. J'appelle ça aussi de l'esclavage.
Bien sûr. Il y a eu des cas assez récemment. Enfin, c'est récent.
Même à Paris.
Oui, à Paris.
Voilà.
Tout à fait. Et puis, tu avais fait un article, rédigé un article pour Le Monde Libertaire sur un film, Le Silence.
Le Silence de Cybèle, oui. Et c'est Ali Yeganeh qui a fait ce film avec une délicatesse absolument incroyable, puisque c'est une petite fille qui est yézidi, qui a été enlevée par Daesh en Irak devant toute sa famille massacrée, et qui va être achetée par un médecin, une femme médecin qui connaissait la famille. Et qui a appris le malheur. Et donc, pour sortir cette gamine de l'esclavage, puisqu'elle est devenue esclave sexuelle, pour la sortir, elle l'a emmenée en France, dans une petite ville de France, et pour essayer de la sauver. Quand les autres filles qui n'ont pas été sauvées, parce qu'il y en a eu plein, et partout dans des tas de pays, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? On les utilise à fond comme esclaves, quand elles ne valent plus rien, parce qu'elles sont détruites. C'est des gamines. Cybèle, elle avait 12 ans quand ça lui est arrivé. Donc, des gamines. Eh bien, on va les vendre pour un mariage, quelqu'un qui va pas être trop regardant quand même, mais qui va donner de l'argent, et on rachète des armes. Voilà, Daesh est extrêmement riche grâce à tous les trafics, y compris les trafics d'esclaves.
Et c'est ce que tu dis, c'est que ça permet de financer la guerre de ces terroristes, notamment. Et puis, tu évoques et tu développes la notion de guerre des classes et de guerre des sexes par le capitalisme et la notion de patriarcat. On a abordé un petit peu le patriarcat. On peut revenir 30 secondes dessus ?
Oui, parce que en fait, et dans le livre de Christelle Tarot sur l'histoire des féminicides, on le voit bien qu'il y a un continuum des violences et que ce sont des violences qui démarrent peu importe où, hein, mais elles peuvent être économiques et ça c'est lié au capitalisme. Elles peuvent être sociales. Hein, et ça, c'est lié au patriarcat. Elles peuvent être religieuses. Alors là, on a des bons exemples en ce moment dans les écoles confessionnelles. Hein. Donc, voilà, il y a un continuum. Parce que tout se tient finalement. Et dans les violences sexuelles qui sont liées au conflit, eh bien, c'est bien la militarisation, c'est-à-dire... Comment on a formé les hommes à être virils, à dominer les femmes, et du coup, ils vont violer en tant que soldats, mais quand ils rentrent à la maison, pour peu qu'ils puissent rentrer à la maison, eh bien, c'est aussi des violences à l'intérieur de la maison. Mmh. C'est-à-dire que cette violence pour lesquelles ils ont été formés, eh bien, eux, il y a aussi un continuum.
Elle est en eux.
Voilà, elle est en eux. Et ça, s'il y a quelqu'un qui l'a très, très bien démontré, c'est Pinar Selek, avec le chaudron militaire turc, qui explique extrêmement bien comment, d'un enfant, on va le construire petit à petit, un enfant garçon, on va le construire petit à petit, pour que il puisse être un militaire, et les Turcs, ils en savent quelque chose. Hein.
Alors, il y a de nombreux articles antimilitaristes. On citait tout à l'heure Emma Goldman, on citait Hélène Brion. Le discours est farouchement antimilitariste. Mm-hmm. Bon, on a rapidement dit que Hélène Brion était une institutrice syndicaliste, pacifiste, et puis. Elle a un procès en 1918 pour défaitisme, c'est-à-dire au lendemain de la guerre, enfin à la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et est-ce que tu pourrais nous parler de son adresse féministe au comité pour la reprise des relations internationales en 16?
Alors, c'est en 1916 qu'elle dit qu'il faut absolument reprendre des relations internationales pour limiter, pour arrêter la guerre. Parce que c'est uniquement... dans des relations de peuple à peuple, de population à population, qu'on peut arrêter la guerre. Donc, elle a écrit une adresse, ça s'appelle une adresse, très très forte. Hein. Et pour revenir sur son procès, par exemple, dans le procès, alors elle est soutenue par Séverine, aussi La Fronde, qui était un journal, féministe, par Marguerite Durand, et par bon nombre de militants. Hein. Elle dit quelque chose qui est fort chez elle. Je suis ennemie de la guerre parce que féministe. La guerre est le triomphe de la force brutale. Le féminisme ne peut triompher que par la force morale et la valeur intellectuelle. Et là, elle montre bien que elle n'a jamais pris les armes, elle n'a jamais été violente, et que c'est par son travail d'institutrice et par sa militance féministe et antimilitariste qu'elle veut faire avancer les choses.
Alors, pour bien montrer l'actualité du combat des femmes, parlons de Nelly Trumel. Bon, elle est décédée récemment, mais qui était-elle ?
Alors oui, elle est décédée en 2018. Elle était née en 1938. Hein, et c'est elle qui a créé l'émission Femmes Libres. Je ne pouvais pas écrire ce livre sans citer Nelly Trumel, de toute façon. Mais pour une autre raison, c'est que elle m'a initiée, je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, au lien entre le féminisme et la guerre. Voilà, c'est grâce à elle que j'ai pu lire des autrices, et je crois que ça, je lui dois beaucoup. Parce que, alors elle a créé cette émission, ce qui s'appelle Femmes Libres, en référence au Mujeres Libres, cette organisation de 20 000 femmes en Espagne. Dès qu'elle a développé cette émission, elle a évidemment parlé de toutes les thèses féministes. C'était donc en 1986, mais aussi des thèses antimilitaristes. Et elle a imprégné Radio Libertaire. Parce que quand il y a eu une autre émission avec René Berthier, c'est elle qui l'a suscité, cette émission, au moment de la guerre du Golfe, en particulier. Oui. Hein, voilà. Elle a pris la parole. Donc, il y a un des textes que je mets où c'est sa prise de parole lors d'un grand rassemblement qu'on avait fait, Place de la République, un 11 novembre. Voilà. Et là, elle avait pris la parole, mais dans toutes les manifestations contre la guerre, elle prenait à chaque fois la parole. Alors, autre chose pour parler d'elle, elle était en lien avec le surréalisme, et puis elle a réussi à peindre des pommes de terre, des fruits, des légumes, des bouteilles de vin, des coupelles de... Voilà, avec une telle réalité de, une telle transparence quand il s'agit du vert, par exemple, ou une telle couleur des rouges quand il s'agit des cerises, que ça devient un sujet. C'est pas une nature morte, c'est un sujet en tant que tel. Et c'est ça, peut-être, qui a été la force de toute sa peinture.
Tu abordes aussi le discours guerrier d'Emmanuel Macron. Alors, on est en plein dedans, là. Hein. C'est vraiment tout à fait actuel. Bon, la France est guerrière ?
Ben oui, la France est guerrière, bien sûr. On augmente le budget de l'armée, largement. On l'a augmenté pendant toute la décennie, enfin, ça sera une décennie à la fin.
Oui, à la fin.
Hein, voilà, deux fois. Et deux quinquennats, ça fera une décennie. Pendant toute cette période-là, Macron a augmenté le budget de l'armée. Mais même dans ses discours, quand il veut parler du réarmement démographique, mais comment on peut parler de réarmement démographique ? On est en train de dire à des femmes, faites plus d'enfants.
Pour partir à la guerre.
Voilà.
Ça rappelle d'étranges souvenirs de 1870 à 1914, quand même.
Voilà, mais on utilise le terme de réarmement. Oui. Donc ça veut bien dire que ces enfants, alors surtout s'ils sont mâles, eh bien, ça serait une chance pour la France,
ben voilà.
Voilà, pour tenir sa place dans comme un pays est extrêmement volontariste par rapport à la guerre.
Ouais. Et je voudrais... Alors, on va préciser que Hélène avait prévu aussi d'autres réponses à d'autres questions, mais que le temps passant, il est déjà 24, on n'aura pas le temps de tout aborder, et qu'on aura une version longue, si je puis dire, sur le site du Monde Libertaire. Hein, Agnès n'est pas là. Moi, je voudrais quand même une explication sur la distinction entre le fémicide et le féminicide.
Alors, c'est la même chose, simplement dans la construction des mots en fonction des pays. On va utiliser ce terme-là ou d'autres. Hein. Il y a plein d'autres termes qui ont été utilisés. Par exemple, Françoise Daubonne utilisait le terme de sexocide. Elle l'a écrit dans les années 1970. Hein. Et puis, dans certains pays, on a utilisé conjugicide ou gynocide. Voilà. Ça, il n'y a pas de différence. Ce qui est sûr, c'est que la définition, c'est... Il y a peut-être une toute petite différence, c'est la définition, on tue une femme parce qu'elle est femme. Mais on peut tuer des femmes parce que ce sont des femmes. C'est-à-dire, on peut avoir un féminicide conjugale. On va tuer sa propre
d'accord,
femme.
Oui. Mais on peut. D'accord. Je comprends, oui.
Mais on peut aussi tuer toute une population de femmes.
Et là, c'est du fémicide.
Et là, il y a des gens qui disent que ça relève plus du fémicide.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Mais c'est tout.
Et alors, un mot quand même sur la situation en Iran. Femmes, vie et liberté, qu'en reste-t-il aujourd'hui?
Elles se sont beaucoup mobilisées. Aujourd'hui, ça couve encore. On se planque, forcément, on est bien obligé, surtout quand on est en prison. Il y en a quand même un paquet d'hommes et de femmes qui sont en prison et qui vivent la réalité des prisons iraniennes, donc abominable. Mais moi, je voudrais citer Shura Makaremi, qui dit que la joie est une pratique de résistance qui permet de combattre la peur. Et c'est par la non-peur qu'on va être sur les barricades et faire peur, peuple. Alors elle est iranienne, elle a encore confiance, parce qu'elle a vu ce qui s'est passé en 79, qu'est-ce qui s'est en 80, qu'est-ce qui s'est passé en 80 et quelques, et en 90. Et à chaque fois, il y a eu des mouvements des femmes et des jeunes et des moins jeunes se sont mobilisés. Elle est sûre que ça reviendra aussi.
En tout cas, quel courage là-bas, parce que c'est pas une. Tu parles de répression terrible d'ailleurs.
Oui,
C'est une pensée peut-être pour Berta Cáceres et Margarida Alves. Qui étaient-elles?
Eh ben, ce sont des femmes. Alors c'est pour ça que je citais les Amériques tout à l'heure. Il y en a une, Berta Cáceres, et en Honduras, et puis Margarita Alves, c'est au Brésil. Ce sont des femmes qui ont lutté. C'est pas des intellectuels qui ont lutté contre l'extractivisme en particulier, donc contre le capitalisme, et qui ont été assassinées tout simplement.
Ah voilà.
Bon. Mais ce qui est important, c'est que la fille de Berta Cáceres a repris le flambeau.
Oui. Donc, et c'est bien parce que le livre aborde vraiment, alors pas tous les conflits, pas toutes les luttes, parce que bon, il fait combien de pages au fait? Il est assez épais. Hein,
oui, je crois qu'il a dû en faire 300.
Ouais, hein, c'est assez épais. Ouais. Hein. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi. Pratiquement, en tant que militant, pour intervenir dans les débats, c'est qu'il y a de nombreux points très, très pratiques, très concrets. Vous pouvez lire ce livre pour vous en servir. Il regroupe des analyses, des références, des témoignages, une bibliographie importante, une filmographie aussi. Et donc, vous pouvez animer des débats. Mais toi, tu peux te déplacer. Je crois que tu étais à Toulouse en février dernier.
Oui, je suis allée à Toulouse. Auparavant, j'étais à Lorient. Et puis là, prochainement, je vais à la Libre Pensée à Pontoise. C'est le 27 mars. Et puis, j'irai au Syrah Limousin le 17 mai. Voilà.
À Limoges.
Ah,
c'est
oui.
ça. Et alors, comment peut-on te contacter si on veut que tu viennes intervenir devant un public, quel qu'il soit?
Eh bien, en écrivant à l'émission Femmes Libres, donc femmes au pluriel, point libre au pluriel aussi, @outlook.fr.
Merci Hélène. Je rappelle le titre de l'ouvrage « La guerre contre les femmes, les femmes contre la guerre » publié aux éditions du Monde Libertaire en novembre 2024. Voilà, chers amis, des livres. On en présentera encore d'autres. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute. On se retrouve le mercredi 26 mars 2025. Nous recevrons Eve Villa pour nous parler de la revue Graminée et de l'intelligence artificielle, un danger pour le métier de traducteur. D'ici là, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, un bel idéal de vie. À bientôt et au plaisir de partager.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. 9e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Avec Sylvie à la régie et puis avec Agnès qui est aussi avec nous.
Salut les filles.
Bonsoir Hélène.
Alors l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. On peut nous suivre sur le blog pour écouter les émissions ou avoir le programme. Émission, donc le blog c'est émission, trait d'union, femmes libres. blogspot.com et on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Pour ce soir, au programme Féminicide par compagnon ou ex, accord et à cri, hashtag 7, Cosette, Fanny, Tutti, ma vie, mon œuvre. Ensuite, nous recevrons Xavier Gauthier, délivrance de la mère, et nous terminerons par des informations, des communiqués